RFI 7h30 à Khartoum et Port-Soudan 6h30 à Yaoundé. Tout de suite le journal présenté par Édouard Dupénoat. Bonjour Édouard.
Bonjour, et une très large partie de cette édition consacrée bien sûr à la guerre au Soudan. Cela fait aujourd'hui 2 ans que les premiers tirs ont éclaté dans Khartoum, avant que la traînée de poudre ne se répande presque partout dans le pays. 24 mois, 13 millions de déplacés et de réfugiés, un nombre incalculable de morts, des soupçons très forts de nettoyage ethnique et toute une sous-région qui s'en trouve durablement chamboulée. RFI en édition spéciale aussi dans une bonne demi-heure. L'actualité africaine ce matin également au Gabon. Après la victoire quasi définitive de Brice Clotaire-Oligui Nguema à l'élection présidentielle, il promet de voir son septennat comme une montagne de défis à relever et non pas comme un aboutissement. Et puis la colère froide et ferme de la MONUSCO, mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Non, dit-elle à la FCM23, non, nous ne sommes pas derrière les coups de feu de vendredi soir à Goma et les militaires FARDC qui sont chez nous ont été désarmés. Une 20aine de pays et d'organisations internationales se réunissent aujourd'hui à Londres et vont œuvrer à soulager les souffrances des populations soudanaises. Voilà pour le vœu affiché en tout cas par les organisateurs de cette conférence, alors que la guerre au Soudan entre aujourd'hui dans sa 3e année. En avril 2023, les tensions latentes entre l'armée régulière d'Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hamdan Daglo, dit Emeti, éclatent en guerre ouverte. Elle n'a besoin que de quelques jours pour s'étendre de Khartoum à la quasi-totalité du territoire soudanais. Des dizaines de milliers de morts, 13 millions de déplacés et de réfugiés, et une guerre que chaque camp croit fermement être en mesure de remporter militairement. En témoigne encore cet assaut de grande ampleur que les FSR ont lancé ces derniers jours dans le Darfour, en revendiquant notamment la prise du camp de Zamzam, au prix sans aucun doute d'un bain de sang parmi les centaines de milliers de déplacés qu'accueillait ce camp, à l'instar de cet homme qui, une fois encore, a dû tout abandonner dans la panique.
Vers 7h30, vendredi matin, les milices ont attaqué le camp de Zamzam. Ils étaient environ 500 hommes à bord de voitures et ont commencé à tirer sur des gens dans le camp. Tout le monde courait dans tous les sens. Il y a des centaines de gens qui sont tombés par terre. J'ai réussi à m'enfuir avec une partie de ma famille en se cachant. On a marché jusqu'à El Fasher. Ça nous a pris 7 heures. 3 de mes enfants ont disparu dans l'attaque. Je ne sais pas où ils sont. À El Fasher, la situation est terrible. Il y a plein de gens qui traînent dans les rues. Ils n'ont rien, ni eau, ni nourriture.
Près de 4 millions de Soudanais sont même passés au-delà des frontières. Ainsi, le Tchad, pays juste à l'ouest du Soudan, accueille-t-il près d'un million de ses réfugiés. La très grande majorité d'entre eux entre par le point de passage d'Adré. N'Djamena et les organisations humanitaires s'organisent tant bien que mal pour les accueillir. Certains, certaines, arrivent dans des conditions d'épuisement total après des jours de voyage et parfois sans rien manger. Envoyé spécial de RFI sur place, Victor Moria.
Rada Adam Abderrahman Matar est arrivé depuis quelques heures seulement à Adré, au poste secours de la Croix-Rouge. Partie il y a 3 jours de Niala, capitale du Darfour du Sud, elle est épuisée, mais raconte ne pas avoir eu d'autre choix que de partir.
La guerre ne veut pas s'arrêter, on a donc été contraint de partir. Et puis on a faim, on souffre beaucoup. Mes enfants n'ont pas de quoi manger et n'ont pas d'entrée d'argent. C'est pour ces raisons qu'on a quitté le pays. Souvent, on ne mange rien de la journée, mais ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 jours sans rien avaler. La famine est répandue partout au Soudan et c'est à cause de la guerre.
Nimat Haroun Hamis Mahamat, 26 ans et 4 enfants, vient elle aussi de Niala. Elle a franchi la frontière en même temps que Rada.
Les avions nous bombardent puis ils partent. Souvent, ça se passe en pleine nuit quand on dort. Et au réveil, on découvre qui a été bombardé pendant qu'on dormait. Un bombardement a tué ma tante et ses 6 enfants dans leur propre maison.
Depuis un an, Mahmoud Mohamed Bari, un Tchadien de 56 ans, fait des allers-retours entre les deux villes frontalières, Adré côté tchadien et Adinkong côté soudanais. C'est lui qui a amené les 2 femmes sur sa charrette et des réfugiés, il en a vu passer des milliers ces 12 derniers mois.
Ils sont sans le sou, leur situation est dramatique. Certains n'ont rien mangé pendant 2 à 3 jours. Ils ont tellement faim qu'ils sont prêts à manger n'importe quoi.
Nimat et Rada ont été pris en charge par le HCR afin de rejoindre leurs centaines de milliers de compatriotes dans les camps tchadiens. Victor Moria, Adré, RFI.
Parmi aussi les derniers développements de ce conflit, L'annonce de la libération de Khartoum par l'armée régulière au début de ce mois d'avril, presque quartier par quartier, les troupes du général Al-Burhan revendiquaient la reconquête de la capitale. Nous avons pu y joindre Doua, une jeune femme qui raconte que, effectivement, elle a vécu cette avancée des militaires comme une libération. Elle a redécouvert des choses qui lui étaient totalement impossibles depuis des mois.
Ce qu'on ressent depuis que les FSR ont quitté Khartoum est énorme. On est excités, contents, on fait la fête, on vit. Je suis allée à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, pendant 4 jours et j'avais l'impression d'être en vacances. On peut maintenant se déplacer dans toute la ville, voir des quartiers auxquels on n'avait pas accès depuis 2 ans. On peut sortir, acheter à manger sans que ce soit dangereux. Avant, vous pouviez vous faire kidnapper juste pour 2 dollars et pour les femmes, il y avait toujours le risque de se faire violer. Maintenant, on peut enfin dormir tranquille. Ça faisait 2 ans que je ne dormais pas. Je peux sortir, acheter à manger. Vous imaginez? Mon bébé n'a jamais bu de lait, ni de jus de fruits. La vie sous les paramilitaires était réduite au minimum. On ne vivait pas, on survivait. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, mais pas complètement heureux, à cause de ce qui se passe au Darfour.
Voilà pour le témoignage de Doua, cette jeune habitante de Khartoum, jointe par Alexandra Branjon. Ces 2 ans de guerre ne font pas porter uniquement le poids des réfugiés sur les pays voisins, et on l'illustre tout de suite au Soudan du Sud, où des violences ont émergé il y a près de 6 semaines entre le camp du président Salva Kiir et celui de son vice-président et ex-rival d'ailleurs Riek Machar, qui a été placé en résidence surveillée. Aux yeux de bien des observateurs, il s'agit là de conséquences en droite ligne de cette guerre au Soudan. On en parle avec notre correspondante à Djouba, en direct avec nous, Florence Mietto. Florence, est-ce que ce conflit au Soudan est en train de contaminer, de métastaser au Soudan du Sud ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le risque d'une propagation, voire d'une fusion entre les conflits soudanais et sud-soudanais est pris très au sérieux par les observateurs. Les relations entre Djouba et Port-Soudan se sont envenimées ces derniers mois en raison d'accusations de soutien du Soudan du Sud aux paramilitaires FSR. Le général Yasser Al-Atta, sous-commandant en chef des forces armées soudanaises, a ainsi déclaré le 5 février que les FSR étaient composés à 65% de sud-soudanais. Des affirmations vivement rejetées par Djouba. En mars, ce même général a menacé de représailles ceux qui soutiennent les FSR au sein du pouvoir sud-soudanais. L'International Crisis Group avance que l'armée soudanaise a très certainement armé à son tour des milices d'ethnie nuère pour faire pression sur Djouba et stopper son rapprochement avec les FSR et les Émirats Arabes Unis. L'armée soudanaise est en effet inquiète de voir s'installer au Soudan du Sud des bases arrières des FSR. Les FSR ont quant à elles tendu une embuscade à des forces de l'opposition sud-soudanaise, les forces de Riek Machar, mi-mars dans le Haut-Nil. Selon les observateurs, celles-ci étaient en route vers le Nil Bleu au Soudan pour se ravitailler en armes.
Florence Mietto, correspondante de RFI à Djouba, en direct avec nous. Merci Florence, une guerre au Soudan et une édition spéciale à suivre aussi sur les antennes de la Radio du Monde dans une demi-heure autour d'Arnaud Pontus et de ses invités. Vos questions aussi autour de ce conflit avec Juan Gomez pour une première partie spéciale d'Appel sur l'actualité tout à l'heure. RFI. Pour l'heure et sur la Radio du Monde, il est 7h38 à Paris, une heure de moins. À Libreville, Alain-Claude Bilibinzé ne déposera pas de recours contre la victoire annoncée de Brice Clotaire-Oligui-Nguema à l'élection présidentielle gabonaise. Son premier adversaire en termes de score, plus de 86 points derrière tout de même, admet avoir perdu, sans pour autant adresser de félicitations au chef de l'État élu. Une fois que la Cour constitutionnelle l'aura définitivement entériné, le tombeur d'Ali Bongo gardera en main pour 7 ans les rênes du pays, 90,35% des voix, un score à la soviétique, comme il l'avait annoncé, mais que lui-même voit comme une preuve de détresse, François Mazet, et donc d'attente à ne pas doucher.
Qui dit immense espoir dit nombreuses possibilités de décevoir. Brice Clotaire-Oligui-Nguema semble le comprendre. Tôt hier matin, alors que beaucoup de Librevillois peinaient à aller au travail après avoir fêté son élection, il a adressé un avertissement public à l'équipe de la présidence juste après la levée des couleurs. Les Gabonais attendent beaucoup de nous. 90,35%, c'est une preuve de leur détresse. L'élection était hier, on ne s'arrête pas sur une victoire. La victoire, c'est le travail qui continue, a-t-il déclaré. Une exhortation mais aussi une justification. Il a expliqué avoir toujours besoin des anciens alors que beaucoup lui reprochent de garder autour de lui la vieille garde de l'époque Bongo. Il compte sur leur expérience pour relever les défis à venir. Politique déjà, avec une très large coalition autour de lui qu'il faudra garder sous contrôle. Sociaux, avec de fortes demandes sur les besoins du quotidien, comme l'accès à l'eau, l'électricité, les routes ou la réfection des écoles. Et économique, surtout, la transition a engagé une politique budgétaire dépensière ambitieuse, mais difficile à financer, surtout si les prix du pétrole restent aussi bas. François Mazé, Libreville, RFI.
Une ressortissante suisso-nigérienne enlevée avant-hier soir dans le nord du Niger à Agadez, rapte confirmée hier par le gouverneur de la région. Plusieurs sources locales et articles de presse parlent de Claudia Apt, 67 ans, installée depuis plusieurs années sur place. Il y a quelques mois, une ressortissante autrichienne avait aussi été enlevée à Agadez. Toujours des enlèvements non revendiqués. Mais de très forts soupçons qui planent autour d'une branche du groupe État islamique. La MONUSCO réfute à son tour vivement les accusations de l'AFC M23, le mouvement armé soutenu par le Rwanda qui accuse, entre autres, la mission de l'ONU en RDC d'être responsable des événements violents survenus à Goma il y a de cela un peu plus de 3 jours. L'armée congolaise et les forces de la SADC ont déjà fermement démenti être derrière ces violences. Et Pauline Azidi, la mission onusienne embraye à son tour.
Naïdi Kadilo, porte-parole de la mission, dément fermement toutes ces accusations. Selon elle, aucune de ces bases n'a été utilisée pour planifier des attaques sur Goma. Pour la responsable onusienne, une nouvelle fois, on se sert de la MONUSCO comme bouc émissaire.
La MONUSCO est présente en RDC pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de protection des civils, de rétablissement de l'autorité de l'État et de stabilisation. Dans un contexte de tension et de désinformation, il arrive que notre mission devienne cible de frustration liée à une situation sécuritaire complexe où de multiples acteurs armés continuent de menacer les populations civiles. Nous comprenons ces frustrations, mais nous insistons sur la nécessité d'un dialogue franc et factuel pour rétablir la confiance.
La MONUSCO qui confirme avoir toujours sous sa protection à Goma plus d'un millier de militaires et de policiers congolais.
Ces personnes se sont rendues dans nos bases fin janvier où ils ont été accueillis dans plusieurs bases de la MONUSCO dans Goma et ses environs. Malgré l'environnement extrêmement volatile et les pressions sécuritaires, la MONUSCO a réussi à garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être de ces personnes sur la durée, en conformité avec son mandat établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mais la mission insiste, tous ces combattants ont été désarmés quand ils ont été accueillis dans les différentes bases. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La République démocratique du Congo, encore, le Togo, et cette nouvelle réaction, cette fois de la dynamique pour la majorité du peuple. Réaction à la désignation du président Fornia Singbe comme médiateur de l'Union africaine dans le conflit en cours dans l'est du pays. La coalition d'opposition demande à l'UA de reconsidérer son choix qui a surpris et choqué, dit-elle au Togo. La DMP dénonce ce qu'elle qualifie, je cite, d'inquiétante complaisance envers un régime de 6 décennies. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 5h43 à Lomé et RFI Matin continue avec Andréane Mellard.
Merci Édouard Dupénoat et il est 7h43 à Paris. On passe.